Buonasera. Alors, je vous parle de cette naissance des théâtres publics et de l'opéra baroque au début du 600 à Venise. Et autre création vénitienne que peu savent peut-être, mais là encore, c'est elle qui a inventé, si on peut dire cela. En 1637, un événement sans précédent ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'art. L'ouverture à Venise d'un théâtre destiné à un public payant un lieu de sociabilité dédié à un genre naissant, une sorte d'art total mêlant poésie, musique, peinture, architecture et danse. L'opéra. Il s'agissait de la création d'un spectacle musical au théâtre San Cassiano à Venise, propriété des frères Tronne. Les Tronne étaient une famille aristocratique, ils ont donné un doge à la République d'ailleurs, lequel avait une très grande qualité, ce monsieur, la seule qu'on lui reconnaît, c'est qu'il était immensément riche. C'est une grande qualité. Alors, les frères Tronne, lesquels, sur l'exemple d'une représentation qui avait eu lieu à Padoue l'année d'avant, dans un théâtre et non pas dans un palais, en dehors de tout événement politique et devant une audience mixte composée de nobles, d'étudiants et de cavalieri, mixte parce que jusque-là c'était seulement une élite qui pouvait profiter de cela. Donc là on avait un mélange. Après ce succès padouan, l'année d'après, ils décidèrent de réitérer l'expérience chez eux avec la création d'un opéra qui s'appelle l'Andromeda. Les auteurs étaient Ferrari et Manelli. Ce théâtre, ils le possédaient déjà depuis un moment, mais dans ce théâtre avait lieu seulement des pièces théâtrales et pas musicales. Donc là, c'était vraiment une nouveauté. Ce sera dans cette même salle, donc il San Cassiano. Pour ceux qui connaissent Venise, il San Cassiano était derrière l'église de San Cassiano, qui existe toujours, pas loin de Rialto, du marché. Donc ce sera dans cette même salle que plus tard, Claudio Monteverdi et Francesco Cavalli feront leur début sur une scène de théâtre public. Jusque-là, les premières expériences menées à Florence et à Mantoue dans le domaine de l'art lyrique étaient encore réservées à une élite, c'est ce que je disais tout à l'heure, aux nobles, aux patriciens. Pourquoi alors est-ce donc à Venise que l'on va inventer l'opéra public? Rappelons tout d'abord que la cité-État était une république, pas vraiment une véritable démocratie, mais une oligarchie, où les grandes familles étaient en perpétuelle concurrence. Chacune d'elles devait montrer son pouvoir et sa richesse. Et en cette période de repli de Venise sur elle-même, le meilleur exutoire était la fête et son cortège de concerts luxuriants. Je voulais vous dire que ça c'est le théâtre, ça c'est un tableau de Francesco Guardi qui nous montre le théâtre San Benedetto en 1782. Il théâtre San Benedetto o Benedetto comme vous voulez est l'ancêtre du théâtre de la Fenice, parce que quand il va brûler à sa place, mais un peu plus déplacé, on construit la Fenice en 1792. Alors, je reprends. L'ouverture par les plus riches patriciens des premiers théâtres lyriques pour un public payant est donc le résultat de cette surenchère démonstrative et onéreuse. Mais cette course à l'effet doit être située dans un double contexte. La cité à l'époque connaît un déclin économique car suite à des terribles épidémies de peste qui contribueront à son affaissement économique, d'une part, et à la découverte du nouveau monde avec le déplacement à l'ouest du centre géopolitique de l'Europe, Venise avait cessé d'être la plus puissante du continent. Cette récession, paradoxalement, s'était faite à une période incroyablement féconde dans un autre domaine, l'art. Considéré l'âge d'or de l'histoire de l'art vénitien, c'est-à-dire la Renaissance, qui apparaît la ville de son queue de corps unique au monde que l'on connaît encore aujourd'hui. Le XVIe siècle, en effet, est l'apogée de l'architecture avec Sansovino, Palladio et de la peinture avec Giorgione, Lotto, Titien, Tintoret, Veronese, etc. Et c'est toujours aussi au XVIe siècle que la musique vénitienne naît véritablement à Venise grâce à un flamand, Adrien Villaert, qui fut maître de chapelle à Saint-Marc de 1526 à 1562 et qui développera un langage musical spatialisé, influencé par l'architecture de la basilique, en jouant avec les effets de superposition et d'écho entre les musiciens et les chanteurs disposés sur des tribunes de chaque côté de l'autel, c'est-à-dire à différents endroits, comme ça. Technique dite des cori spezzati, c'est-à-dire les chœurs brisés, en fait, séparés. En fait, c'était la stéréo avant la lettre. Voilà, San Marco a inventé aussi ça. À l'école de Villaert se formèrent les Gabrielli, c'est-à-dire Andrea et son neveu Giovanni, lesquels porteront à maturité les idéaux polyphoniques de la Renaissance à plusieurs chœurs inspirés par Saint-Marc. Andrea nous offrira une des plus célèbres prémices de l'opéra en composant la musique de quatre grands chœurs pour l'Édipo Tyranno de Sophocle, représenté pour l'inauguration en 1585 du Théâtre Olimpico de Vicenza, chef-d'œuvre d'Andrea Palladio. Ça, c'est l'intérieur, le théâtre, si vous le connaissez, donc c'est la cavea, la scène, qui représente la ville de Thèbes, mais qui rappelle aussi un petit peu la ville de Vicenza. Mais déjà, en 1574, la Sérénissime, à l'occasion de la visite du roi de France Henri III Valois, avait commandé au compositeur Claudio Merulo, organiste à la basilique de Saint-Marc, des intermèdes chantés pour une tragédia de Cornelio Frangipane. Les Gabrielli, donc les deux, étaient célèbres dans l'Europe entière de l'époque et ils offriront au style vénitien les ferments de son pouvoir d'influence. Dans la Sérénissime, qui était alors le régime le moins autoritaire d'Occident, un autre élément allait jouer en faveur de l'éclosion de l'opéra en tant qu'art profane par excellence, la liberté de penser. Venise était d'ailleurs la capitale mondiale de l'imprimerie depuis la fin du XVe siècle. Cette liberté de penser et ce développement de l'édition étaient dus en grande partie à la séparation que Venise avait opérée il y a bien longtemps entre l'Église et l'État. Tout étant profondément catholique et en prenant soin d'asseoir sa légitimité par un solide acte fondateur, avec la translation du corps de l'évangéliste Marc en 828 depuis Alexandrie d'Égypte. L'opposition à Rome allait encourager le développement de l'art profane qui se cherchait. Et en ce début du grand siècle, à la pointe de l'art profane vénitien, il ne pouvait y avoir que la musique. En effet, Venise n'était plus la grande capitale de la peinture. Giorgione était mort en 1510, Titien en 1576, lors de la grande épidémie de peste d'ailleurs. Tintoret en 1594, Veronese en 1588, et ils ne seront pas remplacés. symbole de cet effacement des arts plastiques au profit de la musique, les noces de Cana. Alors, les noces de Cana de Véronèse. Alors, ça, c'est le premier plan. Donc, au premier plan, vous avez Titien en rouge qui joue de la viole. Titien en rouge qui joue de la contrebasse de viole. Je prends le petit truc là pour montrer où il est. Alors, voilà. Il est allumé. Voilà. Titien rouge qui joue de la contrebasse de viole. Le voilà. Ensuite, on a Tintoret qui joue de la lira da braccio. Ensuite, on a Jacopo Bassano qui joue du cornet. Et on a Véronèse dans ce superbe habit en damas blanc là, qui joue du dessus de viole. Et ce personnage qui parle là, qui semble souffler dans l'oreille de Titien, c'est Aretino. Aretino qui était un écrivain, on l'appelait aussi la plaie des princes, c'est-à-dire que c'était une telle langue de vipère que tout le monde en avait peur, hein, même les puissants. Ce qu'il disait Aretino valait presque loi à l'époque. Hein. Donc ils avaient tous intérêt à se le tenir tranquille. Il était arrivé à Venise après le sac de Rome de 1527 et d'ailleurs Sansovino aussi était arrivé à ce moment-là. Et après, il restera à Venise, et il mourra à Venise d'ailleurs. Voilà. Alors, Aretino, donc je reviens à lui, qui semble souffler à l'oreille de Véronèse, grand ami de ses peintres, qui tous sont également musiciens. Je vous rappelle aussi que Giorgione n'est pas là parce qu'il est décédé déjà en 1510, mais Giorgione a débuté à la cour de Caterina Cornaro à Asolo et il était très connu comme joueur de lyra, la lyra, et il dansait aussi. Donc c'était quelqu'un qui aimait la vie et il a beaucoup fait pour cette cour d'humaniste. Et surtout, il aimait les femmes, et plus spécialement les courtisanes. Voilà. Alors, je reviens à la musique. Elle dit, d'ailleurs, la musique, avec ses principes mathématiques relatifs à l'harmonie, ne sert-elle pas de fondement à tous les arts? La grande nouveauté avec l'opéra et qui marque le début de la période baroque, c'est l'avènement d'un nouveau langage en facilitant la compréhension du texte avec la création du récitatif et de l'expression émotive qu'on appelle gli affetti dell'anima. Dès lors, la musique contemplative et complexe de la Renaissance laissera la place au baroque, à l'expression naturelle, à la représentation des passions qui affectent l'âme, ce fameux style rappresentativo ou seconda pratica, imité de la tragédie antique, donc Claudio Monteverdi sera le plus grand maître. Je vous rappelle qu'il était à la cour de Mantoue, hein, il est né à Cremona en 1567, il débute à la cour de Mantoue, et il s'installera à Venise en 1613 à l'âge de 46 ans. Mais entre-temps, il avait postulé déjà pour être à la chapelle de Saint-Marc. La place était déjà prise. Après, il a voulu aller à Rome, à la cour papale. Quand il arrive à Rome, le pape n'a même pas daigné de le recevoir. Alors, il revient à Mantoue et il patiente. Mais à Mantoue, il n'avait pas la liberté que la République donnait à ses musiciens, c'est-à-dire à ses employés dans la chapelle d'Ogal. C'est-à-dire qu'à Mantoue, on faisait le service que pour la cour, c'est tout. Alors qu'à Venise, vous le verrez par la suite, les musiciens de la chapelle, bon, composaient de la musique sacrée, pour la chapelle ducale, mais il pouvait très bien aussi faire de la musique profane, c'est-à-dire des opéras pour la ville. Et en plus, ils avaient la liberté de sortir de Venise et de ses territoires. À Mantoue, ils ne pouvaient pas s'en aller. Mais Venise a concédé ça à ses musiciens parce que pour elle, c'était encore quelque chose qui la célébrait, la renommée de ses musiciens à l'étranger. Pour elle, c'était encore quelque chose qui enrichissait sa réputation. Voilà. Donc, il revient à Mantoue et puis il attendra patiemment que le poste de maître de chapelle à Sama soit libre. Il postule et il est reçu. Et il arrive à Venise, il a déjà 46 ans. Il va créer l'Arianna au théâtre Saint-Moïse en 1639. Il ritorno di Ulisse in patria au théâtre San Cassiano en 1641. Et le dernier opéra, l'année où il va mourir d'ailleurs, l'Incoronazione di Poppea en 1643, donc sa dernière œuvre, où pour la première fois on voyait apparaître un sujet historique à travers une dénonciation indirecte du développement de l'état policier vénitien et de la dérision entourant les personnages divins. Une nouvelle page se tourne. De plus en plus fréquemment, on mettra en scène des êtres humains mus par leur passion, par l'intermédiaire de serviteurs, la vox populi commence à s'exprimer et à la place des sentiments sublimes qui habitaient Orphée, apparaissent la passion et l'intrigue, la rancune, la frivolité et la figure de l'anti-héros ou efféminato, joué par Del Castra, par exemple, le rôle de Nerone ou encore le Giasone de Francesco Cavalli, quelques années plus tard, en 1649, lequel était d'ailleurs l'élève de Monteverdi et qui l'avait certainement assisté dans la composition de l'Ulysse et de Poppea. Francesco Cavalli a eu la chance d'épouser une femme remarquable qui faisait toutes les copies des partitions. Alors, elle lui copiait tout ce qu'elle écrivait, et donc elle avait aidé aussi à terminer ces deux opéras de Monteverdi qui, à la fin de sa vie, étaient souffrants, disons. Alors, Cavalli composera 32 ouvrages lyriques, devenant le compositeur majeur de sa génération, après donc Monteverdi. Toujours Cavalli, en 1668, lui aussi deviendra maître de chapelle à Saint-Marc, où il avait été soprano déjà en 1616, puis ténor, et enfin en 1639, il était au second orgue durant 30 ans avant d'arriver donc au poste suprême maître de chapelle. Comme l'a écrit Patrick Barbier, seule une ville tournée vers le commerce et les affaires depuis tant de siècles, mais aussi une ville qui, à travers ses fêtes et son carnaval, ne cessait de brasser les classes sociales, a pu ainsi transformer l'art lyrique, élitiste par excellence, en un art commercial et populaire. Tout ce qui viendra sera imité de Venise. Voilà Claudio Monteverdi. Vous voyez qu'il a dans les mains un masque, qui est le symbole du théâtre en fait. Ça, c'est Francesco Cavalli, avec la partition du Xerxes. On en parlera tout à l'heure à la fin de lui encore. Voilà. Et ça, c'est le théâtre San Samuele, en 1656. Qui était propriété de la famille Grimani, autre grande famille qui possédait aussi il San Giovanni Crisostomo, il San Giovanni Paolo. Ça c'est une particularité de Venise, tous ces théâtres et vers la mi-siècle, c'est-à-dire vers 1650, disons. Il y en avait plus d'une vingtaine qui étaient nés de ces théâtres, les premiers étaient en bois. Et donc ces théâtres, je disais, portaient tous le nom de l'église auquel ils étaient à côté. Donc on a le San Cassiano, ça, et on avait le San Benedetto qui donc deviendra la Fenice, ça c'est le San Samuele. Ensuite on verra, on avait le Sant'Angelo qui était le seul théâtre d'ailleurs qui se trouvait au bord du Grand Canal. Aujourd'hui il y a un palais, un grand hôtel à la place qui s'appelle Hôtel Sant'Angelo d'ailleurs, voilà. Et il San Giovanni Crisostomo, c'est à côté del Malibran, aujourd'hui c'est il Malibran en fait. Et il San Giovanni Paolo, c'est où il y a du côté de l'église de San Giovanni Paolo, etc. Puis il y a eu un théâtre novissime aussi. Alors je reviens à celui-ci, San Samuele. Il est derrière il Campo San Samuele où il y a il Palazzo Grassi aujourd'hui et il Palazzo Malipiero. Et dans ce théâtre, et c'est pour ça qu'on a cette peinture encore de Francesco Guardi, dans ce théâtre on a reçu cette année-là i Conti del Nord, c'est-à-dire l'héritier du trône de Russie avec sa femme. Donc on a donné une fête, etc., toutes ces réjouissances pour fêter ce grand personnage. Voilà. Alors au XVIIe ou XVIIIe siècle, les théâtres vénitiens sont ouverts l'hiver principalement, pendant le carnaval, qui dure presque 6 mois. En fait, on ouvrait les théâtres quand on revenait de la villégiature et de la chasse, dans leur domaine en terre ferme, c'est-à-dire à cette période-là, à l'entrée de l'hiver, et comme c'est le carnaval. Alors on ouvrait les théâtres. Le carnaval, qui durait 6 mois d'ailleurs, s'arrêtait durant les fêtes de Noël. Après les fêtes de Noël, on reprenait, on réouvrait, et ça allait jusqu'à le carême, avant le carême. Après le carême, on réouvrait à nouveau, etc. Et on allait jusqu'au début du printemps, où la vie mondaine continuait, et puis après, aux premières chaleurs de l'été, on s'en allait faire dans les villas. C'est pour ça qu'on appelle la villeggiatura, parce que ça vient de villa en fait, où on tenait table ouverte, où on jouait, on recevait, etc., etc. Donc ça coûtait déjà assez cher, hein. Ces familles avaient les moyens de toute façon, hein. Alors le public populaire, toujours dans les théâtres, se tient debout ou sur des sièges pliants au parterre, qu'on appelle aujourd'hui la platea, les places d'orchestre, hein. Pour les riches et les nobles, les loges sont le meilleur moyen d'être vues, avec une guerre sans merci pour obtenir le meilleur. Ce qu'on appelait la guerre dei palchi, c'est-à-dire la guerre des loges, qui sont louées à l'année. Les locataires les décorent et les meubles selon leur goût, et s'y font servir gourmandise et rafraîchissement par des laquais. Peu à peu feront leur apparition les rideaux pour dissimuler les parties de jeu. Je vous rappelle que les Vénitiens ont toujours été des joueurs acharnés de jeux de hasard, ça a été vraiment une plaie. Donc les jeux et les ébats des amants. D'ailleurs, en 1776, Giacomo Casanova, à l'époque espion pour les inquisiteurs vénitiens, rapporte que les loges du théâtre San Cassiano étaient un des lieux privilégiés pour les ébats charnels, étant aussi situé dans le quartier le plus fréquenté par les prostituées, puisqu'il était pas loin de Rialto, et à Rialto on avait ce qu'on appelle il castelletto, c'est-à-dire un lieu où s'étaient ces dames qui tenaient compagnie et agrémentaient les soirées de ces messieurs les marchands, parce que Rialto était vraiment un carrefour de tous ces marchands étrangers et autres qui venaient à Venise pour leurs affaires. Voilà. Ce théâtre donc sera fermé d'ailleurs en 1807, puis démoli en 1812, et sur le terrain fut créé le jardin du Palazzo Albrizzi, qui existe toujours d'ailleurs. Comme on peut l'imaginer, les salles restaient rarement silencieuses pendant les représentations. On imposait aux nobles d'entrer masqués et vêtus du tabarro, cette longue cape noire que vous connaissez. Quant aux prostituées, elles devaient être habillées décemment et ne pas retirer leur masque pendant toute la durée du spectacle, qui commençait à 23h et durait jusqu'à 3h du matin. Les musiciens étaient disposés au même niveau que les places appelées aujourd'hui d'orchestre. Les premières fosses construites pour les musiciens datent de la fin du XVIIe seulement. Parfois, l'orchestre gênait la vue de la scène pour les spectateurs installés au bas du théâtre et nombreux sont les témoignages se plaignant de la longueur des manches de théorbe. Alors, ils ne pouvaient pas voir, ils étaient là comme ça. Pendant tout le spectacle, la salle restait illuminée, moins que la scène. Les loges étaient éclairées à la bougie et la scène par des lampes à huile. Alors, les nobles qui étaient dans les loges, comme ils étaient éclairés par les bougies, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'amusaient parfois, surtout les jeunes nobles. Ils prenaient les cires des bougies, ils faisaient des petites boules et ils les lançaient sur les spectateurs, c'est-à-dire sur le peuple qui était là-bas, en fait. On s'amusait comme on pouvait, quoi. Alors, les familles aristocratiques propriétaires se faisaient une concurrence impitoyable, allant jusqu'à louer des loges chez le rival pour les laisser vides afin de porter atteinte à la réputation de la salle. C'est vraiment là la guerre. Mais cette concurrence se traduisait aussi par la recherche des meilleurs artistes du moment, avec le règne des divi, dive, castrati, impresari. Venise invente aussi le star system avec tout ça. Conséquence de cette cruelle concurrence, des impresari en faillite, des nobles qui avaient du mal à payer le loyer de leur loge à l'année, donc ça faisait une somme, et parmi les patriciens propriétaires, des faillites personnelles ou familiales suite à la gestion hasardeuse d'une salle. En ouvrant l'opéra à un large public, Venise a jeté une allumette dans une botte de foin et en quelques années, les plus grandes villes d'Italie et d'Europe suivront. Alors, à Venise, on ne peut pas oublier, quand on parle de musique, gli ospedali. Gli ospedali, les quatre ospitali de Venise, le mot vient de hospite, celui qu'on accueille. Donc, ce n'était pas vraiment des hôpitaux comme on l'entend aujourd'hui. Donc, il y en avait quatre, célèbres d'ailleurs, on va en parler, la Pietà, i mendicanti, i derelitti e gli incurabili. Donc la Pietà accueillait les bébés abandonnés. I mendicanti, les mendiants, parce que ce n'était pas un décor de laisser traîner les mendiants dans les rues de la ville, donc on les accueillait dans cet endroit. Mais les étrangers, enfin ceux qui n'étaient pas de Venise, de mendiants, on les expulsait hors de la ville. I derelitti, c'était les indigents, c'est-à-dire les gens qui s'étaient appauvris, les familles qui s'étaient appauvries, soit par maladie ou avec la guerre surtout. Et l'incurabili, c'était les malades de syphilis. Vous savez que la syphilis, on l'appelait il mal francese, tandis que les Français, ils l'appellent le mal de Naples. Parce que Charles VIII, quand il est descendu à Naples, il a ramené ça comme cadeau, il l'a transmis aux Italiens, d'ailleurs le marquis de Mantoue l'a attrapé aussi, à Fornovo, quand ils ont eu affaire aux Italiens, en fait, les Français ont perdu et sont repartis. Donc voilà, alors ces fameuses maladies étaient soignées là à l'incurabili. Il existe encore l'endroit, aujourd'hui c'est l'école des Beaux-Arts, et ça se trouve à Les Zattere, sur le canal de la Giudecca. C'est un bâtiment qui est de Sansovino, d'ailleurs, du XVIe siècle. Alors, gli ospedali, inventé par la Sérénissime, à mi-chemin entre couvent et conservatoire, illustrant à merveille le compromis que Venise a toujours réalisé entre profane et sacré. Ces deux univers n'ont jamais été aussi proches et confondus. À ce propos, il faut rappeler que Monteverdi et Vivaldi, les deux plus grands compositeurs de la cité qui ont inauguré et conclu l'âge d'or de la musique vénitienne, se firent ordonner prêtres à la fin. Avec les ospedali, Venise permet aux jeunes filles à l'époque de chanter à l'église, fait alors unique en Occident. À l'origine, ces institutions sont destinées à accueillir les pèlerins, les malades, les orphelins, les mendiants et les enfants abandonnés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Leurs ressources sont constituées d'aumônes, des dons, des legs. Et peu à peu, afin d'augmenter le nombre d'offrandes, ils vont donner des concerts publics avec leurs pensionnaires féminines auxquelles on apprend un métier lié à la musique. Ces concerts vont connaître une fréquence prenant des dimensions considérables et offrant aussi une alternative à l'opéra pendant les périodes de pénitence religieuse, c'est-à-dire quand les théâtres étaient fermés. Alors on allait là. Dès la première moitié du XVIIe siècle, les quatre ospedali que j'ai évoqués sont devenus des véritables conservatoires où on enseigne la musique, le chant et la pratique instrumentale, exclusivement aux jeunes filles qu'on appelait les putes. Et les jeunes garçons, on les appelle les putains encore aujourd'hui. Les putes, c'est les filles, les putains, c'est les garçons. Les putains, c'est autre chose, hein. Vous l'imaginez. Alors, aux jeunes garçons, par contre, les jeunes garçons sont pris en charge par les confréries et les scuole. Alors, on leur apprenait un métier artisanal, par exemple, faire les clous et les voiles pour l'arsenal, etc. Leurs églises sont construites comme celles des salles de concert. D'ailleurs, l'anglais Charles Burney, en 1770, après la visite d'un hôpital, il dira « Cette musique, qui était du plus grand style théâtral, quoique exécutée dans une église, n'était point mêlée au service divin. L'auditoire resta assis tout le temps, comme à un concert. » À la vérité, on aurait pu l'appeler avec raison un concerto spirituale. Au XVIIe siècle, tout est en place pour le développement d'une nouvelle forme de tourisme musical à Venise. On accourt de l'Europe entière, les dons affluent et on peut s'offrir les meilleurs instruments et les meilleurs compositeurs pour transmettre leur art aux jeunes filles qui ne chantent pas seulement des motets et des oratorios. La musique instrumentale profane s'y développe aussi considérablement, dont la plus célèbre est celle de Vivaldi à l'ospedale della Pietà. À la Pietà, on a accueilli les bébés abandonnés. Ça a été aussi une plaie à Venise. Pourquoi ? Parce que vous savez que, par exemple, il y avait une loi non écrite qui disait que dans les familles patriciennes, pour ne pas disperser le patrimoine, on ne mariait qu'une fille. Les autres, tout au couvent, à partir de l'âge de 12 ans. Donc, forcément, on avait des enfants illégitimes. Même chose chez les garçons. Des familles aristocratiques, parce que souvent beaucoup restaient célibataires, et puis ceux qui prenaient les vœux aussi, qui devenaient religieux par exemple, mais même les autres. Donc ces messieurs avaient des besoins, donc il y avait les courtisanes pour voir cela, mais il y avait beaucoup d'enfants illégitimes, et donc certains étaient élevés en famille, mais le plus souvent, bon, ils étaient... Alors, la Pietà accueillait tous ces garçons et filles. Voilà. Alors, je reviens à Vivaldi, à l'ospedale della Pietà. Cela n'empêchera pas ce dernier, c'est-à-dire Vivaldi, de prendre la direction du théâtre Sant'Angelo, qui venait d'ouvrir, celui sur le Grand Canal, en 1713, en tant qu'impresario, directeur musical et compositeur, où il créa une vingtaine de ses opéras. On oublie que Vivaldi a composé plus d'une cinquantaine d'opéras. On connaît surtout sa musique instrumentale, mais il a fait beaucoup d'opéras. Donc là, à Sant'Angelo, il crée une vingtaine de ses opéras, mais aussi au théâtre San Samuele, on l'a vu tout à l'heure. Moins à la moda que le fameux San Cassiano, qui était le plus réputé. Et alors, comme ils avaient moins de moyens sans Samuel, ils ne pouvaient pas s'offrir les chanteurs célèbres du moment. Par exemple, les célèbres Castra, Farinelli, Caffarelli, la soprano Faustina Bordoni, qui sera la femme après du compositeur Adolphe Asse. Jean-Jacques Rousseau, qui était, comme vous savez, secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, dans un passage de ses confessions, il dit, en parlant de la musique, « Une musique à mon gré bien supérieure à celle des opéras et qui n'a pas sa semblable en Italie ni dans le reste du monde. » D'ailleurs, les premiers conservatoires en Europe seront instaurés sur le modèle des ospedali vénitiens. Aujourd'hui reste un des plus célèbres, c'est celui de la Pietà, l'église de la Pietà, dont subsiste l'église que vous voyez sur la rive degli Schiavoni, construite en 1745. Ça veut dire que Vivaldi ne l'a pas connue, parce que Vivaldi meurt en 1741 à Vienne, comme vous savez. Donc celle-ci, c'est celle qui a été construite après, plus moderne pour l'époque. Et là, la façade principale, comme vous voyez, sur le bassin de Saint-Marc. Tandis que l'ancienne, elle était sur votre droite, là, où il y a l'hôtel Métropole. Et la façade principale était plus petite, un peu plus petite. Et la façade principale, elle était sur le Rio, c'est-à-dire le canal interne. Okay? C'est-à-dire que celle-ci, on l'a tournée carrément dans ce sens-là. Donc la Pietà, dont subsiste l'église construite, hein, mais aussi le plus petit degli ospedali, qui s'appelait celui des indigents, des relitti, dit aussi l'ospedaletto, à Venise on dit ospedaletto, parce qu'il était petit, où on peut voir encore aujourd'hui la sala della musica, dont vous voyez ici la fresque de Jacopo Guarana, de 1778, parfaitement conservée encore. C'est une salle qui est petite et qui a été construite presque à la fin de la République. On arrive vraiment vers la fin. La fresque montre, vous voyez, Apollo. Attendez, j'y arrive. Apollo, avec le violon, là. Et les putes, c'est-à-dire les filles del corps, on les appelait aussi les putes, voilà, qui ont la partition musicale que le compositeur Anfossi avait faite pour elle. Et bon, il y a le petit chien. Ici, il y a des stucchi, des fresques. Et les grilles que vous voyez, c'est où s'étaient nées ces jeunes filles. Voilà, là il y en a, on en aperçoit une, parce qu'elle chantait toujours derrière les grilles, hein, même à la Pietà. Donc on entendait leur voix, mais on ne les voyait pas. Et quelquefois on imaginait, par ces voix d'ange, la beauté de ces filles, mais quelle était la délusion de ce grand personnage qui a voulu absolument en voir une et qu'il a vu avec le visage ravagé par la petite vérole. Alors vous voyez que la curiosité parfois, il vaut mieux. Alors, les quatre ospedali, donc, regorgent d'anecdotes piquantes. En 1783, une des filles dei mendicanti, qui s'appelait Adriana Gabrielli, dite la Ferrarese, s'échappe de l'ospice pour devenir la maîtresse de Lorenzo da Ponte à Vienne. Elle sera la première Fior di Ligi du Così fan tutte de Mozart, vous savez que c'était le librettiste de Mozart, avant d'incarner un des premiers rôles pour la création des Noces de Figaro. Autre épisode, en 1717, Cecilia Guardi, sœur du fameux peintre Francesco Guardi, placée à l'ospedaletto où elle chantait comme soprano, rencontra Giovan Battista Tiepolo, le peintre donc, qui peignait les tympans de l'église à ce moment-là. et tous deux s'enfuirent ensemble et se marièrent. Cecilia figurera dans nombreux tableaux de son époux. Mais dame établie, elle aima un peu trop le jeu et la boisson, en mettant parfois en péril le budget familial. Pareil qu'elle était très penchée là-dessus, hein, la boisson et le jeu. L'ouverture des théâtres publics dans toute l'Italie sur le modèle vénitien n'empêcha pas les princes de continuer à commander des ouvrages lyriques pour fêter des événements exceptionnels. Au contraire de Monteverdi, qui venait de l'opéra de cour et finit sa carrière en composant des opéras publics vénitiens, Francesco Cavalli, qui venait de l'opéra public, sera sollicité à plusieurs reprises pour composer des opéras de cour, voire son Xerxes, qu'on a vu tout à l'heure, pour la cour de France, et l'Ercole Amante pour le mariage de Louis XIV. Aboutissement d'une vingtaine d'années d'efforts de la part de Mazarin d'imposer l'art lyrique à la cour de France. Et à ce propos d'opéra de cour, et en citant Philippe Bosson, je terminerai avec l'Orfeo, favola in musica de Claudio Monteverdi, qui dit, donc je cite, alors il dit que l'Orfeo n'est pas une véritable opéra, mais toute l'opéra y est inclus. Attends. Il n'appartient pas encore à ce qu'on appellera l'âge baroque, mais on ne peut pas aller au-delà sans que le baroque apparaisse. Le génie de Monteverdi est d'avoir opéré ce renversement dans la douceur. Il n'a rien régné. Il clôt la Renaissance, met un point final à l'ère du madrigal. Il ne crée pas l'opéra contre le madrigal. Il en fait sortir. Dans l'Orfeo, Monteverdi fait accoucher la Renaissance et c'est le baroque qui va naître. Alors maintenant, je vous parle de l'Orfeo avant de vous faire entendre un tout petit bout à la fin de mon propos, toujours en citant Philippe Bosson, parce que je trouve qu'il a fait une très belle description de cela. Alors, l'Orfeo s'ouvre par une puissante fanfare, tout le monde connaît. 16 mesures sur un unique accord et que Monteverdi ordonne de jouer 3 fois. C'est la fameuse toccata, vous entendrez après. Cette toccata n'est pas une ouverture, elle n'ouvre rien. Elle n'est pas dans l'œuvre, mais de ce côté-ci du monde. Le 24 février 1607, en entendant les premières trompettes, ce n'est pas le silence qui se fait comme dans nos théâtres, mais au contraire, tout d'un coup, c'est plein de bruit. Tout le monde se lève, le duc entre. Ça, c'est là à la première de l'Orfeo. Cette musique est un signal, puis elle devient l'accompagnement de la très réelle, la très officielle entrée du duc Vincenzo Gonzaga dans le lieu du spectacle qui n'est pas un théâtre, mais c'est une salle de son propre palais. Les musiciens de cette fanfare ne sont certainement pas ceux de l'orchestre, mais i suonatori ordinaire du palais ducal. Rien qu'un signal donc. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que cette fanfare retentisse, c'est que Monteverdi se soit donné le mal de l'écrire. Cela ne faisait pas partie de ses fonctions et n'y était pas obligé. Premier symptôme de ce que cette œuvre a d'inhabituel est Monteverdi de méticuleux. Ce duc qui entre à l'instant où retentissent les trompettes de la toccata, pendant que tout le monde se lève et que tous les visages se tournent vers lui, particulièrement ceux des dames, ce duc donc a une duchesse qui se prénomme Eleonora et qui est une Médicis. Elle est la propre sœur de cette Maria qui a épousé Henri IV. Et c'est pour cela que le duc s'est rendu à Florence le 6 octobre 1600 pour assister au mariage par procuration de sa belle-sœur. C'est là qu'il a vu et entendu cette fameuse rappresentazione qui racontait tout en musique l'histoire d'Euridice de Peri, première tentative d'opéra. C'est pour avoir été jaloux de cette Euridice qu'il a commandé à Monteverdi, son propre musicien, de composer un Orfeo. Ainsi, ce soir-là, lorsque Vincenzo traverse la galleria au son de cette toccata, il vient assister à la démonstration de supériorité de son duché de Mantoue sur celui de son beau-frère de Toscane, François Ier de Médicis, et tout le monde dans l'assistance l'a compris, Monteverdi aussi. Saluons la vanité, remerciant l'orgueil qu'il suscite des chefs-d'œuvre. Alors, ça c'était la citation. Alors, pour terminer, je vous fais écouter la toccata et il prologo de cet Orfeo qui commence donc ce prologo. C'est la musique qui se présente à l'assistance princière et annonce une histoire dans laquelle le pouvoir de la musique occupera une place centrale. Le drame d'Orphée, qui avec son chant et sa lyre triompha des enfers. Alors, c'est la musica après la toccata. Et avant de se présenter et de dire, et je vous cite en italien les quatre petites phrases que je vais traduire en français, donc la musica dira « Io, la musica sonna, che i dolci accenti so far tranquillo ogni turbato cuore, e or di nobilira e or d'amore posso infiammar le più gelate menti. » Qui veut dire en français « Je suis la musique et par mes doux accents je sais bien apaiser les cœurs les plus troublés tantôt de haut courroux ou d'amour et enflammer les esprits les plus glacés. » Mais avant cela, avant de se présenter, elle rend hommage à la lignée des Gonzagas et elle dit, je vous le dis en français là, hein, elle dit « Des rives de Montparnasse aimé, je viens vous, illustre héros, noble lignée de rois, dont la renommée compte les sublimes vertus sans atteindre à la vérité tant elles sont élevées. » Alors, c'était vraiment... voilà. Donc, à musica, andiamo. J'espère que ça va marcher. J'éteins ça, hein? Est-ce que ça va faire vraiment?
Moi, je sais plus.
Dans ton cas,
thank you.
Voilà, ok, stop. Voilà.
Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai choisi cette version de Harnoncourt avec la mise en scène de Jean-Pierre Ponnel parce qu'elle nous montre les personnages et la cour comme c'était à Mantoue avec les costumes. D'ailleurs, les costumes sont très beaux. Il y a eu des versions qui ont été meilleures au point de vue musical après, mais la mise en scène, je trouvais qu'elle était plus pertinente pour le propos d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Et peut-être qu'il faut allumer quand même.
Oui, on va allumer le fond.
Voilà. Alors, quelques questions. Est-ce que vous avez... Voilà, monsieur.
Mais simplement, mais je, c'est pas forcément une question, mais moi je revenais plutôt au théâtre plutôt qu'à l'opéra. Le fait qu'apparaissent des théâtres publics à Venise, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Enfin, je sais pas si ce que vous en pensez, mais c'est que dans le théâtre va apparaître aussi d'abord le théâtre en langue vulgaire, d'une part. Et puis d'autres pas.
Mais c'est pas un théâtre musical en vulgaire, Roussante et.
Non, mais justement, je parle du théâtre.
Je parle de musique.
Oui, oui. Non, mais simplement, musical. C'était en complément de ce que vous disiez, d'une part, et d'autre part, qu'apparaissent des personnages qui sont des personnages du peuple aussi.
Oui, je l'ai dit.
Mais c'est pareil dans le théâtre. Et puis l'aspect aussi public, c'est que le théâtre il est public, mais il est payant, et que c'est une source de revenus aussi pour des familles patriciennes qui commencent à être dans le besoin à cause justement des lois nouvelles.
Ça leur permettait de payer les imprésaries, les divas et divis, castrati et compagnie.
C'est malgré tout toujours quand même calqué sur le modèle de l'Empire romain et des jeux et des.
Alors, à propos de cela, d'Empire romain et de Rome. C'est une chose qui est passée aussi dans la peinture après. C'est-à-dire que la Sérénissime a toujours évoqué la République romaine et pas l'Empire. Pour elle, l'Empire a été décadent. Et c'est pour ça que dans l'opéra baroque, les personnages de Néron, etc., sont toujours mis en dérision et chantés par i castrati. Voilà. Parce que justement, pour accentuer cela, pour elle, la Rome républicaine était beaucoup plus vertueuse que la Rome impériale. Voilà.
Et puis, en complément, quand vous parliez de la pietà, la porte pour déposer les nouveau-nés existe toujours. Elle est dans la petite façade latérale.
Elle est murée quand même.
Elle est murée, elle existe, elle est on peut la voir.
Oui, voilà. Elle existe dans la cale latérale à l'église. Puis si vous allez à l'hôtel Métropole, on vous montrera aussi les restes, somme, qui est de l'ancien hôpital et de la Pietà. Voilà. Marie-Hélène, qu'est-ce que tu voulais dire?
Moi, tout simplement, je voulais demander le nom de cette chanteuse, que moi j'ai trouvé sublime, quoi. Bah, la chanteuse de la musique.
Qui est les interprètes. Alors, je vais te dire.
Oui, ça date de quand?
Alors, c'est en 88, je crois. Oui. Alors, L'Orfeo, bon, là, Euridice, la musica qui va aussi chanter le rôle de la Speranza, après, un peu plus loin, c'est Trudelise Schmidt. Ce sont des chanteurs qui aujourd'hui on connaît moins, peut-être. L'Orfeo, c'est Philippe Autant-Locher, Dietlin der Turban, Trudelise Schmidt, Roland Herrmann, Glenis, etc., etc. Voilà.
Et lui, Jean-Pierre Ponnel.
L'Espéranza, cette même interprète reviendra faire l'Espéranza et dira la fameuse phrase quand Orfeo arrive di lasciate ogni speranza a voi che entrate, vedere se tutto è sparo che rompe un offer. Donc elle chante.
Ok,
merci.
Encore? Non, non, allez-y. Vous?
Il y a des questions.
Il y a des questions.
On a beaucoup parlé du carnaval, hein, sans arrêt.
Carnaval qui sévit en ce moment.
Oui, j'allais dire.
Sévit en ce moment. C'est-à-dire que hier c'était lundi, dimanche c'était le premier jour avec le fameux vol de l'ange depuis le campanile. Hein. Et à la fin du carnaval, il y a lo svolo, voilà, c'est le volo dell'angelo, après il y a lo svolo dell'aquila e il volo dell'asino a Canareggio, enfin c'est tout des nuances.
Che vuol dire lo svolo?
Lo svolo, c'est un peu se moquer del volo. Svolacchiare, ça veut dire volter, voilà, c'est ça. Donc, c'est la fin. Et aussi, samedi, alors la veille, il y a le fameux défilé des maris. Alors, les maris, ce sont 12 jeunes filles, souvent des étudiantes, qui postulent et puis qui sont contentes d'être élues, deux par cestier. Et donc, elles vont former un cortège le samedi que les gondoliers vont amener sur des civières, en fait, hein, habillées en costume d'époque, des jardins pratiquement jusqu'à la place Saint-Marc. Et à la fin du carnaval, la plus belle est élue Miss Carnaval. Et c'est elle qui fera l'ange l'année d'après. Si elle veut bien, hein, parce qu'il ne faut pas avoir les vertiges hein, pour descendre de là. Alors, cette chose a été inventée quand ils ont remis en route le carnaval, parce que vous savez que le carnaval s'est arrêté avec la Sérénissime, puis ça a été fini jusqu'au XXe siècle. Et ces dernières années du XXe siècle, en 76, 18, je ne me rappelle plus trop l'année, pour comme ça agrémenter un peu et attirer du monde et aussi pour le commerce, on a remis le carnaval qui est une grosse affaire commerciale et de confusion, je dirais. Et donc cette histoire des maris a été inventée pour l'ouverture du carnaval. Cette histoire, elle rappelle un événement qui a eu lieu vers l'an 1000. Alors à cette époque-là, les mariages étaient publics une fois par an. C'est-à-dire qu'une fois par an, on réunissait les fiancés qui devaient se marier et il y avait comme ça un mariage public. Alors on apportait ses biens, sa dot, certaines étaient modestes, d'autres, hein, et il y avait ce mariage. Cette chose est venue à l'oreille des pirates en face, les Narentani, parce qu'ils étaient le long du fleuve Narento, en fait en Dalmatie, on appelait à l'époque, hein, lesquels sont venus, ils ont volé les fiancés avec les biens, bien sûr, hein, et ils sont partis. Évidemment, les Vénitiens, ils ne sont pas restés comme ça, ils l'ont couru après, il y a eu une échauffourée, etc. Et puis, ils ont récupéré leurs fiancés. L'histoire ne dit pas s'ils les ont récupérés intacts, hein. Ils ont récupéré les fiancés, peut-être pas les biens. À partir de là, le Dange a établi que lors du mariage public suivant, il aurait doté les plus pauvres, le couple le plus pauvre de fiancés. C'est-à-dire qu'il offrait une somme enfin, pour qu'ils puissent aisément aussi pourvoir à leur future famille. Voilà. Et donc, ils ont pris l'idée de cette chose pour créer cette fête de Marie. On les appelle les Maries. Voilà. À propos du carnaval.
Mais en ce moment, d'ailleurs, au carnaval, il y a une attraction supplémentaire, si je puis dire, ce sont les pickpockets.
Ah oui. Et puis cette année, il y a aussi le problème, la peur des attentats. Donc ils ont quadrillé la place Saint-Marc, je crois qu'ils l'ont en quatre parties, il me semble d'avoir lu, avec des couloirs de dégagement en cas de problème. Et avec des fouilles à l'entrée de la place. Quoi. Donc ils n'ont pas mis l'estrade avec ce théâtre en bois comme les autres années, où avait lieu tous les jours de la musique, le défilé des masques de la journée, parce qu'après, le plus beau masque récompensait le dernier jour du carnaval. Là, cette année, sur la place, ils avaient mis du tout, pour la sécurité, en fait. Donc, les réjouissances ont lieu soit sur le canal de Canareggio, ai Giardini, soit à la Biennale aussi pour les enfants. Puis après, bon, les étudiants à Campo Santa Margherita, enfin, il y aura. Mais je pense que ce sera autre chose à cause de cette peur des attentats cette année.
Però il carnaval sarà sempre a Venezia.
No, ci sono altre città, Viareggio, il carnaval di Viareggio aussi è très célèbre. Il est différent. Puis dans le Piémont aussi, il y a un carnaval où il y a une jetée d'orange fabuleuse. Je ne sais plus quelle ville, enfin, bon, évidemment, celui de Venise est célèbre parce qu'il y a toute une histoire qui le porte, mais qui n'est plus ce qu'il était. Temps de la Sérénissima. En fait, ça servait les temps du carnaval. Venise a toujours encouragé ça. Pourquoi ? Parce que ce mélange de classes permettait une sorte de. C'était une soupape de défoulement pour les riches et les pauvres qui se mêlaient. Ils se mêlaient dans tous les sens du terme. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on s'amusait beaucoup. Et c'est pour ça qu'un des masques que les jeunes femmes ou jeunes filles mettaient, c'est la fameuse morette. La morette, c'est pas la baouta, c'est-à-dire le masque comme ça qu'on attache avec un ruban, mais la morette, c'est un masque mort, c'est parce qu'il n'est pas en noir, hein, mort ou foncé. La morette, c'est un masque qui prend tout le visage, et au lieu d'être attaché avec un ruban, il y a un bouton à l'envers qu'on tient avec les dents. Comme ça, ça vous empêche de parler. Parce que vous pouvez vous reconnaître aussi par votre voix. Mais la raison précise n'est pas... Il y a une autre raison à cela. C'est que... Alors, à Venise, surtout durant le carnaval du XVIIIe siècle, c'était vraiment très libertin, on avait l'habitude de voir les dames très décolletées, des poitrinées carrément. Hein. Ça n'émoustillait plus les messieurs, les regards des hommes, parce qu'on avait l'habitude. Hein. Par contre, la voix était le point sensuel de la dame, parce que c'est la dame qui répondait aux avances du monsieur. Là, il y avait le jeu qui commençait. C'était pas son décolleté. Donc, le fait que si elle voulait bien parler, alors là, bon, après, il pouvait y avoir des choses derrière qui suivaient, mais et voilà, donc la morette, c'est surtout ce... il faut dire aussi que Venise, bien avant, avait permis aux prostituées, de se mettre aux fenêtres, à un certain moment, à se mettre aux fenêtres avec les seins nus pour attirer le regard, surtout des jeunes patriciens. Parce qu'on s'était aperçu qu'ils suivaient un peu trop cette mode qui venait du Moyen-Orient et ils déviaient du droit chemin. Or, l'Église condamnait cela. Et donc, pour les encourager, montrer la marchandise, si j'ose dire, on avait permis à ces dames de se mettre à la fenêtre. D'ailleurs, il y a encore le ponte della Tetta vers San Giovanni e Paolo et le ponte delle Tette qui est dans le quartier de Rialto, le quartier chaud de l'époque. Cioè, à l'époque, elles devaient être tout autour nel castelletto, le fameux castelletto de Rialto. Mais après, évidemment, avec le temps, elles se sont répandues dans toute la ville. On en trouvait dans tous les coins, ces dames très gracieuses. Et pas gratuite, quand même. D'ailleurs, si vous, quand vous quittez le Campo Manin pour aller à Campo Sant'Angelo, il y a la calle della Cortesia, della Courtoisie, et le pont della Cortesia. Parce que là, puis après, un peu plus loin, il y a la calle della Mandola. C'est-à-dire que la calle della Cortesia, à un certain moment, finit, elle continue. Mais il s'appelle Calle della Mandola. La Mandola, c'était le sexe féminin en Vénitien. Donc c'est un quartier chaud là aussi, parce qu'après perpendiculaire, il y a la calée des assassins. Parce que justement, il y avait des échauffourées quelquefois et ça finissait avec des coups de couteau. Comptez-y, parce que je vous disais, c'était ces dames courtoises, pas gratuites, qui rendaient des grands services à l'humanité, masculine surtout.
En fait, on ne connaît pas Venise, hein. On va aller voir tout ça.
Ben, je me tiendrai à Venise, à part messieurs qui la connaissent bien, puis peut-être d'autres personnes qui sont venues plusieurs fois à Venise. Hein. Mais bon.
J'ai simplement une demande de précision, parce que je crois avoir vu, mais de façon peut-être un peu fugitive, qu'en raison justement des craintes d'attentats ou d'agressions, on interdisait les masques ou on les remplaçait par...
Oui, et le maire avait dit cela. Mais comment voulez-vous empêcher les masques au carnaval? Après, il a rectifié, il a dit qu'on pouvait demander l'identité des personnes en leur faisant lever le masque. Parce que c'est pas possible de faire un carnaval sans masque. Ça ne veut plus rien dire. Hein. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Moi je suis partie samedi, je vais rentrer dimanche et ça va presque finir. D'ailleurs, je ne vais pas aller à Alma Libran voir un opéra que j'ai dans l'abonnement, qui est les Chevaliers de la Table Ronde. Parce que comme c'est le Mardi Gras, et le Mardi Gras à Venise le soir. Je ne vous conseille pas ce qui se passe après. Donc j'ai donné et j'ai dit tant pis, je laisse passer, et je n'ai pas envie d'aller dans cette confusion. Parce que comme c'est la fin vraiment du carnaval, surtout les jeunes ils se saoulent, ils n'ont pas de demi-mesure, ils savent plus s'amuser. Et donc ça devient le cirque. Moi j'ai vu une année, je venais d'amis, j'avais passé la soirée chez eux parce qu'elles nous avaient fait les frittelles de carnaval, fameuses frittelles que j'adore. Et pour traverser le pont de Rialto, revenir chez moi, parce que j'habitais de l'autre côté à Santa Croce, à Sanstae, c'était pas possible. On aurait dit comme une nuée de fourmis sur le pont, il y en avait partout, 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 il n'y avait pas la place pour passer. La panique m'a pris un peu. Heureusement, j'étais avec un autre monsieur, qui était le cousin de mes amis, qui était médecin, et qui habitait aussi de l'autre côté comme moi. On a eu du mal à passer. Après, on s'est séparés après le pont, et moi, j'ai fait pour aller chez moi. Il y avait un type qui me suivait, il devait être sous. J'ai dit, purée, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je ne voyais personne. Je m'arrête, je me retourne, il s'arrête, je reprends, il reprend. Alors j'ai vite allé à San Cassiano, justement, là il y a une cale où il y a un bistrot, où il y a toujours du monde, je m'arrête là, et puis je me suis dit, ben, on va voir s'il me suit encore. Finalement, il s'est arrêté là, peut-être qu'il devait boire un autre coup pour se soutenir, et moi j'aurais profité pour filer derrière l'église de San Cassiano et arriver à Santa Maria Mater Domini, à Sanstae, où j'habitais. Quoi. Voilà. Mais non, c'est pas des. C'est, ils savent plus s'amuser, je sais pas, ils sont. Bon, mais comme ça. Il était peut-être drogué aussi, parce que maintenant, en plus de l'alcool, il met de la drogue, alors ils ne comprennent plus rien.
D'urgence doivent être sur les nerfs,
sur
les dents, au carnaval.
Il y a un poste de la Croix-Rouge qui est place Saint-Marc sous la Procuratia Nuova, à côté du café Florian. Là, il y a toujours un poste.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au carnaval cette année, ils ne sont pas habillés. Hein.
Non, pas tous, ils se déguisent pas, hein, non. Alors, il y a quand même un groupe de Français très fidèles qui viennent tous les ans. Ils se font leur costume eux-mêmes et ils le changent tous les ans et ils viennent pour cela. Voilà. Puis après, bon, il y a des fêtes le soir dans certains palais et puis il y a les fêtes prestigieuses comme le bal du Doge à Palazzo Pisani Moretta.
1000 euros l'entrée, plus votre partenaire, plus le champagne, etc. Et là, les costumes vous coûtent aussi cher, parce qu'il faut un costume d'après le thème de la fête. Et c'est toujours très, très, très beau. C'est des costumes de théâtre, presque, ils sont magnifiques, coûtent très cher. Et c'est surtout beaucoup d'étrangers qui vont, parce que avec ces prix-là...
Il y a des amateurs, non?
Oui.
Je voudrais savoir s'il y a un rapport avec le masque et la petite vérole.
Avec un masque
et... la petite vérole.
Non, mais ça, c'est... Les poutes, en fait, comme c'était des enfants abandonnés, ou naturel, forcément quelquefois ils attrapaient toutes les maladies de l'enfance, il n'y avait pas de vaccin et souvent ces petits ou ces petites étaient défigurés par la petite vérole qui était un fléau dans les maladies enfantines et même adultes. Parce que le fils du duc Vincenzo Gonzaga, justement, Francesco, le quatrième, il est mort, il a régné l'année en 1612, parce qu'il est mort aussi de la petite vérole, la maladie infectieuse. voilà, donc souvent ces petites, elles étaient marquées par les maladies de l'enfance, puis certaines, elles passaient par l'enfance, elles mouraient.
Le masque, c'est simplement parce qu'il y avait l'obligation.
Non, non, c'était pas un masque. Ils n'avaient pas le. Non, je parle de les poutées.
Ah non, mais on parlait des masques. Là, non, le rapport entre les masques.
Voilà, non, les petites qui avaient la petite vérole, c'était les poutées. Et le fait de chanter derrière les grilles, c'était pour les préserver au regard. Puis c'était comme ça. Quoi,
le masque, c'est plus...
Comme c'était l'église en plus.
On resterait encore des heures à écouter Mathiel. Vous n'êtes pas d'accord?
Oui, oui, oui.
Alors, on va applaudir quand même.
Merci.